Et ce matin, bienvenue encore une fois. On va poursuivre avec un autre message dans cette série d'été. Ça avance. Les dimanches vont très vite, filent à une vitesse pour moi. Vous imaginez pas. J'ai l'impression que ça fait déjà une année qu'on est ici. Ça file à toute allure de notre côté. On est déjà au cinquième message dans cette série-là. Ce matin, je veux partager un message qui va être un petit peu la continuité de celui de dimanche passé. Si tu l'as manqué, ben, tu peux aller l'écouter en ligne. Mais si tu l'as manqué, c'est pas grave. On va vraiment faire un wrap-up de tout ça. On va explorer un autre angle mort de la vie chrétienne. Moi, j'aime ça, cette série-là, parce que ça nous permet d'aborder des sujets qu'on aborde peut-être pas aussi souvent qu'on devrait, qu'on n'enseigne pas à l'Église comme on le devrait. Puis, très honnêtement, on manque quelque chose. Et c'est un sujet qui nous concerne chacun d'entre nous, parce qu'on a tous été munis d'une de ces affaires-là. Ce matin, on va voir ensemble ce que la Bible dit sur mon corps. Sur mon body. Oula, aïe aïe. On va voir ça. Pour le corps, c'est un petit peu comme pour... Vous allez peut-être vous poser des questions. Comment ça, on parle là-dessus ce matin? Hein? Vous allez voir. Vous allez voir. La parole de Dieu en parle, c'est important d'en parler. Pour le corps, c'est un petit peu comme pour le climat. C'est un sujet qu'on a abondamment abordé. On aborde abondamment dans la société. On l'a abondamment abordé depuis des décennies déjà, la question. Et c'est un sujet que nous, les chrétiens, on considère un petit peu comme gênant. On ne sait pas trop comment aborder le sujet. On ne sait pas trop... Puis, très honnêtement, je n'ai pas la prétention de l'aborder mieux que les autres, je veux juste l'aborder moi ce matin. C'est un petit peu gênant pour nous, on ne sait pas trop comment aborder la question des fois, ou encore, on pense que c'est de nouveau, comme pour le climat, ce n'est pas assez spirituel pour être abordé un dimanche matin. Et ce matin, je pense qu'on fait une erreur, très honnêtement, je crois qu'on fait une erreur parce que, de ne pas en parler, parce que la Bible en parle, premièrement, mais c'est une erreur parce qu'en n'en parlant pas, on ne forme pas les chrétiens comme on devrait à fonder leur comportement sur ce que la Bible enseigne à ce propos-là. Si on le fait, ou si on le fait, des fois, c'est à coup de règlement. Puis je sais que les ados, vous êtes avec nous ce matin, puis vraiment, tu es à ta place dans ce message, vraiment, si tu es avec nous dans la grande salle pour le message. On est très fort pour dresser des listes de « fais pas ceci, fais pas cela, fais ça ». Fais pas ça. Même les évangéliques, on a cette tendance-là, on est naturellement porté à se fixer des règlements. Je me rappelle quand j'étais leader de jeunesse il y a plusieurs années, on partait en fin de semaine avec les ados, puis là, on était plus vieux qu'eux, là, puis ils essayaient de nous soudoyer un petit peu pour savoir c'est quoi qu'on va parler durant la fin de semaine, c'est de quoi qu'on va parler, c'est quoi le sujet de ce soir. Puis finalement, on avait un invité, puis le sujet c'était de parler de sexualité. Ils étaient écœurés. Ils étaient dégoûtés parce que pour eux, c'était synonyme de liste de « fais pas ceci, fais pas cela ». Tout ce qu'on leur disait, et c'est vrai malheureusement, avec le temps là, je me dis, tu sais, tout ce qu'on leur disait, c'était « fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ceci, touche pas à cela », sans vraiment leur expliquer pourquoi Dieu a institué un cadre, pourquoi Dieu a fait ceci. Puis là, je ne parle pas de sexualité ce matin dans le message nécessairement directement, mais on va parler du corps, cette espèce de machine incroyable que Dieu a créée, que Dieu nous a donnée pour nous permettre d'être en contact les uns avec les autres. Et notre malaise dans l'Église en général ne date pas d'hier. Ça fait des années, ça fait des siècles que c'est comme ça. Et on ne réglera pas la question ce matin, on ne fera pas le tour au complet. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse repartir avec une meilleure compréhension de ce que la Bible dit à ce propos. Parce qu'on est appelé à faire des disciples. Et pour faire des disciples, ben, il faut que nous-mêmes on soit bien formés. Vous me suivez là? Vous êtes encore avec moi? Ça va? C'est l'été, hein? On est tranquille ce matin. Mais surtout, ce matin, ce que j'aimerais plus que tout là, c'est qu'on comprenne qu'on est plus que jamais dans une société où on a besoin de développer des outils, de déployer des méthodes, de développer des capacités en tant que chrétien pour discerner, pour distinguer entre ce qui est un message purement culturel, sociétal, et ce que la parole de Dieu déclare sur ce qu'on devrait faire. Parce que ce n'est pas la culture de notre temps et ses porte-paroles qui devraient nous guider, mais vraiment la parole de Dieu. Puis ça, c'est vraiment important. Vous allez voir, on va apprendre à se connaître au fil du temps, mais pour moi, les messages sont des messages qui doivent être axés vers la pratique, mais fondés sur la Bible. Vraiment, fondement, on l'a chanté tantôt, fondement inébranlable de notre foi. Donc, vraiment ancré sur la parole. Aujourd'hui, il y a tellement de voix qui crient dans nos oreilles, de toutes sortes, qui crient toutes sortes d'affaires dans nos oreilles, des influenceurs. Vous allez voir, je ne suis pas très fan de coach. Si tu es coach dans la vie, je te respecte, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Mais je trouve qu'on a trop de coachs qui se multiplient sur à peu près tous les sujets qui existent, avec des conseils de vie de toutes les sortes. Il y en a qui sont vraiment légitimes, et vraiment, c'est super bon ce que tu fais si c'est ton cas. Mais il y en a d'autres, parfois on se pose des questions. Cette semaine, j'écoutais à la radio, puis fait divers, une jeune femme, je ne sais pas ceux qui ont entendu parler, mais une jeune influenceuse sur le sujet de style de vie, santé, bien manger, etc. Puis 39 ans, est décédée de malnutrition. Elle est suivie par plus de 50 000 personnes en Europe. c'est une Française, et suivie par des milliers de personnes, elle donne des conseils de nutrition, a décidé de fonder sa nutrition uniquement sur une base de légumes et de fruits, et est morte de malnutrition. Et c'est vraiment ça la cause, là. Ça fait trop longtemps qu'elle se nourrit mal, il manque d'éléments essentiels dans son corps, et décédée de ça, a jamais changé d'orientation. Mais combien vont suivre ce genre de voie-là? Combien vont baser leur quotidien de l'alimentation à l'habillement sur des conseils de toutes sortes par un de ces spécialistes-là? Combien vont aligner leur comportement sexuel, leur relation avec les autres, en se basant sur ce que les influenceurs de ce monde proposent? Et combien vont normaliser leur choix sur les tendances de la société dans laquelle on est? Et la réalité, c'est que même les chrétiens puisent dans toutes sortes de ces sources-là. Tu sais, si on réfléchit, si on discute, si on regarde un petit peu dans quoi on fonde nos habitudes, ben, même les chrétiens sont là-dedans, là. Et c'est pas grave, là, c'est pas si mal que ça, en notant qu'on marche avec équilibre, bien sûr, là. Mais je crois qu'une des raisons qui fait que les chrétiens, on base beaucoup nos vies sur ce genre de sources-là, c'est parce qu'à l'Église, on parle pas de ce genre de sujet-là. On n'en parle pas assez. Pourquoi c'est un sujet qui nous met mal à l'aise? J'aimerais juste qu'on puisse regarder un petit peu, faire un petit retour dans le passé ensemble quelques instants pour bien s'entendre ensemble, parce que tantôt je disais que le tabou sur la question du corps datait pas d'hier. Les premiers chrétiens déjà avaient à gérer des prédicateurs, des personnes qui avaient des tendances hérétiques qui se propageaient, qui propageaient des conceptions quelque part biaisées qu'il fallait confronter dans l'Église. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Colossiens, en parle déjà. Colossiens 2, au verset 20 à 23, Paul va dire ceci aux chrétiens en leur disant, c'est des nouveaux chrétiens d'origine païenne, d'origine non-juive de ce temps-là, qui connaissaient très peu les fondements de l'Ancien Testament, les fondements de la Torah et tout ça. Et il va leur dire, si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? C'était des prédications qui se faisaient. Tu devrais suivre ceci, faire cela, faire ceci, pas faire cela. Il va les nommer, verset 21, « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait l'usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. » À l'époque, ces conceptions-là provenaient vraiment d'une culture basée vraiment... Dans la société, beaucoup de courants de pensée étaient véhiculés par la philosophie grecque, et où on voyait le corps comme un obstacle à l'élévation spirituelle. La pensée dualiste qui met en opposition vraiment la matière et l'esprit. Platon disait que le corps, c'est la prison de l'âme. C'était ce qu'on pensait de cette époque-là. Et le problème, c'est que ça répond à quelque chose qui est totalement humain, naturel. Les humains, on a de la misère avec l'équilibre. C'est difficile pour nous. On n'aime pas ça, les zones grises. On n'aime pas ça être dans le gris trop longtemps, ça nous insécurise. On aimerait ça vraiment qu'on nous dise ou aller à gauche ou à droite. Et c'est pour ça que des siècles plus tard, on est rendu aujourd'hui, on lutte encore avec le même genre de challenge qui se répète dans le temps, par crainte de tomber dans des débordements ou dans le péché. On en parle très peu, ou on fait des listes de règles. Vu qu'on pense que parfois le corps, c'est la chair, mais c'est vrai en plus, le corps c'est la chair, mais des fois on fait le raccourci en se disant, c'est la chair, donc c'est la source du mal. Fait qu'au fil des siècles, ce qui s'est passé, c'est qu'on a sous-entendu parfois que le corps était inférieur à l'esprit. Ça, c'est un défi, c'est un problème. Ce qui fait qu'on a parfois tendance à devenir, en tant qu'Église, puis ça a souvent été le cas dans l'histoire, malheureusement, un petit peu comme les gardiens de cette pensée, de cette approche dualiste. Mais ça amène d'autres défis d'alimenter ce genre de pensée-là. Parce que le fait de privilégier l'esprit vis-à-vis du corps, ça fait qu'on tombe facilement dans un autre piège, l'ascétisme. C'est un terme, pour la plupart peut-être vous savez de quoi on parle, mais on a vite fait de penser que par une certaine forme de déni du corps, accompagné d'efforts, d'interdictions, d'une discipline stricte, ben on peut réussir à être plus spirituel. Combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie chrétienne à se dire « je vais me donner un bon coup de pied, puis je vais me reprendre, Seigneur, tu vas voir, je vais y arriver ». Combien de fois ça nous est arrivé? Faire un déni de nous-mêmes, puis au lieu d'aller chercher à la source qui est en Dieu, on essaie de mettre un effort de plus. On rejette quelque chose, on se dit, ok, pense-y pas, puis tu vas... Combien de fois on m'a dit, regarde, tu dois rejeter cette pensée-là. Ouais, mais elle est là, qu'est-ce que je dois faire? Dieu doit l'enlever, cette pensée-là, puis il doit y avoir un changement de cœur qui doit prendre place en Jésus. Mais rejeter cette pensée-là n'est pas nécessairement la solution. Tu dois rejeter ces souvenirs-là, tu dois penser à autre chose, regarde vers l'avant. Non, mais c'est parce qu'il y a une guérison qui doit prendre place dans ma vie. Dieu doit faire quelque chose dans ma vie. Si je ne le laisse pas faire, je fais juste être dans le déni de tout ça. Fait que cette pensée-là, l'ascétisme, où on On se dit que le déni du corps accompagné d'efforts d'interdiction, des disciplines strictes vont nous amener à être plus spirituels. Alors, ça a amené l'Église au fil du temps, puis là on fait un très 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 écourté d'histoire de l'Église ce matin, à régler un grand nombre de questions à coup de « fais pas ça, fais pas ceci, fais pas cela » ou tout simplement « on n'en parle pas » et ça nous a amené dans nos années 60, celles qu'on connaît, nos fameuses années 60 où cette rigidité religieuse nous a amené au point où on est devenu, on est arrivé au point où il est interdit d'interdire, complètement, totalement. Vous savez, que ce soit en France ou en Amérique, on a tous vécu cette période-là où, à un moment donné, on a décidé que c'était interdit d'interdire, alors qu'on avait rendu le corps en général, mais la sexualité aussi, en particulier comme des sujets tabous. Mais dans ces années 60-là, on commençait à clamer la liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps, que personne ne pourrait rien nous dire. Peu à peu, à partir de ces années-là, on est allé à l'extrême opposé de là où on était avant. Ceux qui étaient là dans cette période-là, là, je pense que vous pourrez confirmer ce que je dis. L'extrême opposé. Et l'Église a eu tendance à se replier parfois, encore plus. Mais alors qu'on interdit d'interdire, on s'en va complètement à l'opposé d'où on était. On est passé d'un monde de limitation à une forme de vie ultra-matérialiste, centrée sur l'importance du soi. Tu sais, cette culture de selfie dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense que les gens de l'ancien temps, là, s'ils nous regardaient avec nos cellulaires en train de nous prendre en photo. L'autre jour, j'étais en train de chercher mes enfants au camp de jour, puis la jeune femme, une jeune maman, là, une jeune femme était assise dans l'auto à côté de moi. Je pense pendant 10 minutes que j'attendais mes enfants à se regarder dans le miroir partout, puis à se prenait en photo. Ça me mettait mal à l'aise, très honnêtement. Mais on est dans cette société-là, dans cette culture-là. Avant, on niait l'importance du corps au profit de la spiritualité. Maintenant, le corps est devenu le centre d'intérêt principal. Comme une certaine quête, on laisse de plus en plus la spiritualité de côté. Et le problème qu'on a ce matin, c'est qu'en réduisant notre compréhension du corps à sa dimension physique seulement, corporelle, en pensant que le corps est tout, ce qu'on a, c'est qu'on finit par vivre en nous disant que tout ce qu'on fait doit être une source de fun. Il faut avoir du fun, parce que le corps n'aime pas ça, avoir mal. Qui aime avoir mal, honnêtement, ce matin? Toi? On va se parler, mon frère. Qui aime avoir mal, honnêtement? Mais là, on a sombré dans l'extrême opposé, on est passé de l'ascétisme, on tombe dans l'hédonisme. Et le grec hédoné signifie tout simplement plaisir. Puis, si on regarde le dictionnaire, la définition de ça, c'est un système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Une motivation de l'activité économique par la recherche du maximum de satisfaction par le minimum d'effort. T'es toujours là ce matin? Paraît que le corps a un petit système nerveux qui fonctionne, fait que si quelqu'un dort à côté de toi, tu peux le pincer. Que dit la Bible à propos de mon corps? C'est important vraiment d'en parler ce matin, parce que la pensée biblique est drastiquement opposée à celle du monde, complètement opposée à celle de la société. Si c'est Dieu qui nous a créés, il est important pour nous, pour chacun d'entre nous, d'avoir le point de vue de Dieu sur ce sujet. On va lire ensemble dans Romains 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul qui va dire « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. » Pas en train de leur dire à centrer tout ce que vous êtes sur votre corps. Non, offrez-vous comme un sacrifice, offrez vos corps qui sera agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous dit que ce n'est pas possible de parler de l'humanité de manière dualiste, de parler de notre humanité. C'est impossible, ce n'est pas biblique. La pensée biblique sur le corps ne nous permet pas de choisir entre l'esprit et la matière. C'est impossible. Si on va dans la Genèse, un petit peu comme pour le climat, où tout trouve sa source, dans Genèse 2, verset 7, Dieu va dire, il est dit à propos de ce que Dieu a fait, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, et il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » On lit dans la Genèse que ce que Dieu a créé, il l'a trouvé bon. Mais ça, c'est valable seulement à partir du moment, c'est devenu bon à partir du moment où Dieu a insufflé un souffle de vie. Il a mis un souffle de vie, son esprit dans le corps, que lui avait façonné lui-même. Et de la même manière qu'il n'est pas possible de dissocier les habitants de leur habitat, comme on l'a vu il y a quelques semaines avec la question du climat, il faut comprendre que c'était le choix de Dieu de créer l'homme et la femme, non seulement corps physique. Dieu a choisi de le faire comme ça, là. Ce n'est pas un hasard. Dieu n'a pas fait des tests en se disant, là ça fonctionne cette fois, ça marche. Alors qu'humainement, on aborde la question sous un point de vue dualiste, où on met en opposition les deux notions. La Bible a une approche beaucoup plus globale, un ensemble quelque chose qui se coordonne. Le psalmiste, dans le psaume 139, au verset 14 et 16, va dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés afin, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Ce qui fait d'un être humain un être humain, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est d'avoir été tissé par la main de Dieu. C'était le choix de Dieu, Dieu l'a fait, et d'être vivant par le souffle de Dieu. On a été créé matière et esprit. Ça, c'est le premier point qu'il faut se rappeler ce matin. On a été fait matière et esprit, on ne peut pas dissocier l'un puis l'autre. Le psalmiste, au psaume 32, versets 1 à 5, va dire « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas de ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait et je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi et ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Et je t'ai fait connaître mon péché. Et je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Vous voyez le lien qu'il y a entre ce qui se passe. Le péché, on pourrait se dire, ça se passe, c'est spirituel uniquement, mais c'est fait, c'est accompli avec le corps. Et il y a un lien entre les répercussions physiques de ce que le psalmiste dit et la conséquence du péché spirituel dans sa vie. Et au moment où de sa bouche, il reconnaît, eh bien Dieu fait quelque chose dans son corps. Il y a une interconnexion fondamentale qu'il a en nous. On n'est pas juste esprit, on n'est pas juste corps, on est corps, âme et esprit, c'est ce que la Bible dit. Et c'est comme ça que Dieu a déclaré que c'était bon. Amen. C'est comme ça que Dieu a déclaré que c'était bon. Je disais tantôt, la pensée biblique est drastiquement, elle est basée, elle est fondée à des années-lumière de la pensée du monde dans laquelle on vit face à la question du corps. Dans la pensée grecque du temps de Paul, on déclarait que le corps, c'était la prison de l'âme. Mais Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, lui déclare que le corps, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. C'est complètement autre chose, là. Ce n'est pas une prison, c'est un temple. C'est l'endroit où Dieu a décidé d'habiter ton corps, ton body, celui dont tu prends soin ou pas. C'est l'endroit où Dieu a décidé d'habiter. C'est dans notre corps qu'on expérimente ce qu'on vit. Notre relation avec Dieu, c'est dans notre corps qu'on l'expérimente. C'est dans notre corps que le Saint-Esprit vient habiter. Ce n'est pas juste dans nos pensées, ce n'est pas juste dans nos cœurs que Dieu vient habiter. Jésus vient dans mon cœur. Non, Jésus vit en moi, point, tout entier. Comprenez ça? Ça a une incidence dans ma vie. Ça amène quelque chose. Si on y pense sérieusement quelques instants, là, une bonne compréhension de ce que la Bible dit sur mon corps doit impérativement m'amener à changer ma manière de vivre, à changer ma manière d'orienter mes pas. Dieu a déclaré bon ce qu'il a créé. Ça veut dire que je ne peux pas continuer de nier, maltraiter ou ignorer ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas faire ça. C'est impossible de faire ça. Ça veut dire que celui qui s'en prend par négligence ou volontairement à son corps ou au corps de quelqu'un d'autre s'attaque littéralement à quelque chose de précieux, à quelque chose de sacré. Vous savez, on a tous tendance... Je suis très direct, vous allez voir dans mon... Je suis très parlable, vous pouvez venir me parler, mais je suis très direct. J'aime ça quand les gens sont directs. Sois respectueux, parce que j'ai aussi un cœur, là, tu peux briser mon cœur si tu me parles méchamment. Mais... C'est assez direct, puis c'est correct. Parle en vrac, puis on va trier les morceaux, puis c'est correct. Puis très souvent, j'ai remarqué dans l'Église, d'une manière générale, on a, même si on se dit dans le monde évangélique qu'on n'est pas, nous on n'a pas trop de tradition, on n'est pas trop dans les rituels et tout ça, on a quand même une coupe de rituels, mais on a tous quelque chose en nous qui fait, quand c'est sacré, c'est sacré. Je me rappelle à un moment donné, puis je ne suis pas trop à jouer là-dessus, mais j'étais à Sorel, à l'église, puis à un moment donné, je vois un camion rentrer dans le stationnement, un gros camion, c'est rare, un camion de même qui rentre, je le vois par la fenêtre de mon bureau, puis il ne ressort pas, fait que je me dis, bon, c'est quoi, ils font des travaux, ils ne nous ont pas prévenus. Fait que je m'en vais dans le stationnement sur le côté de la bâtisse, puis là j'avance, bonjour, là le moteur tourne, il n'y a rien, la porte est ouverte, je vois un monsieur, je vois juste deux pieds comme ça, puis un petit jet de liquide entre les pieds. Fait que là j'arrive, bonjour! Là je suis là. Tu pouvais, c'est un lieu public, man. Pourquoi tu fais pipi au milieu du stationnement, t'sais? Là, je lui ai dit, je suis pasteur, puis c'est une église, c'est sacré ici. Pardon. Des fois, on n'ose pas enlever ce qui est sacré. C'est bizarre. On n'ose pas pour toutes sortes de raisons. Vous comprenez ce que je veux dire avec ça? Mais on a oublié que le temple, ce qui est sacré, ce que Dieu a rendu saint, ce que Dieu a rendu sacré, c'est ça. Amen. C'est ça. Puis on se permet d'y faire ce qu'on veut ou de lui laisser faire ce qu'on veut. Et on a totalement oublié ça. Dans son livre, The Daniel Plan, Rick Warren, un pasteur que j'aime beaucoup quand même dans ce qu'il écrit, a écrit ceci dans ce livre-là. Peut-être certains vous l'avez lu, vous avez trouvé ça futile parce que c'est un livre qui t'amène à faire un régime et tout ça, mais lui a dit quelque chose d'intéressant. En 1980, à l'âge de 25 ans, j'ai fondé l'église Salolbach en Californie. L'église grandissait rapidement vers des milliers de membres et je travaillais de longues journées. C'est une église qui a baptisé son 40 000e baptisé il y a 3 ans en arrière. Fait que vraiment grandissait rapidement. Et de longues journées, mangeait des repas sur le pouce et passait des heures assis à diriger des réunions, à conseiller les gens, à étudier pour des sermons. J'ai commencé à prendre quelques kilos chaque année, mais parce que mon énergie restait élevée et que je ne me souciais pas beaucoup de mon apparence, j'ai ignoré ce problème de santé croissant. En 2010, j'étais gravement en surpoids et ironiquement, au cours de la dernière décennie, j'avais envoyé près de 21 000 de nos membres d'église à l'étranger dans 196 pays pour servir les malades et les pauvres grâce à un programme que nous avons développé qui s'appelle le plan Peace. Le C de Peace, c'est un acronyme en anglais, signifie soin des malades. Et nos membres ont pris soin avec compassion de la santé d'autres personnes dans le monde qui souffraient d'une malnutrition, de paludisme, du VIH, sida. Mais pendant tout ce temps, j'ai ignoré ma santé déclinante et celle de mes propres membres. J'ai donc commencé à me renseigner sur la santé préventive. Ce que j'ai appris m'a choqué. Pour la première fois dans l'histoire, autant de personnes souffrent du résultat de trop manger que de la malnutrition. C'est fou, c'est des vraies statistiques qui ressortent. Hein. Alors que des millions de personnes souffrent de ne pas avoir mangé, pas avoir assez mangé, des millions sont aux prises avec l'effet de la surcharge de poids. 7 Américains sur 10 sont en surpoids. On peut se dire, c'est les Américains, mais on n'est pas si loin que ça. Hein. Le diabète, les maladies cardiaques, d'autres maladies liées au mode de vie tuent désormais plus que les maladies infectieuses dans le monde. Le dimanche suivant, je me suis donc présenté devant ma congrégation et j'ai fait cette confession publique. Mes amis, j'ai été un mauvais intendant de ma santé et un exemple terrible pour vous. Pendant que nous aidions des milliers de personnes dans le monde, j'ai ignoré le problème ici, à la maison. Alors aujourd'hui, je me repens publiquement et je vous demande pardon. Dieu attend de nous que nous prenions soin de nos corps, du corps qu'il nous a donné. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je n'ai que deux ou trois... Je n'ai pris que 2 ou 3 livres par an, mais je suis votre pasteur depuis 30 ans. J'ai donc besoin de 90 livres. Est-ce que l'un d'entre vous veut se joindre à moi pour retrouver la santé? Ça a été sa question un dimanche matin, sincèrement. Des fois, on nommait cette question-là, mais c'est mon corps qui est devenu l'endroit sacré. Nous sommes appelés à prendre soin de ce qui appartient à Dieu. Je vais appeler mes amis les musiciens à me rejoindre, on va bientôt terminer. Vous savez, on l'a vu en parlant du climat, on est appelé à être des intendants de ce que Dieu a fait. Moi, très jeune, je n'ai pas grandi dans l'église, mais ma famille était croyante. Puis souvent, j'entendais des personnes plus âgées, des chrétiens, qui disaient, moi j'étais sportif. Ma famille, non, zéro, là, pas une selle, zéro. Moi, j'avais besoin de bouger, là, tu sais, l'effet dynamo, plus tu bouges, plus tu as besoin de bouger, là. C'est un petit peu moi, puis j'ai un fils qui est comme ça, là. Puis, j'entendais les chrétiens plus âgés dire, le sport, c'est mal. C'est le culte du corps. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon pour un chrétien. Moi, j'étais actif, puis j'écoutais ça, puis j'étais comme, voyons donc, je ne comprenais pas, j'étais un peu frustré. C'est sûr que si tu vas dans les extrêmes, comme dans tout, là, c'est vrai que n'importe quoi peut devenir un problème. Puis là, je fais un petit wrap-up du message de dimanche passé en recitant ce que pasteur Emmanuel a cité la semaine passée dans 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 13. L'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens qui étaient reconnus pour leur niveau d'immoralité, immoralité sexuelle, leur débauche, leur arrière-plan de contre la parole et la volonté de Dieu. Puis toutes sortes de choses prenaient place dans l'Église et va leur dire... Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Puis ça, c'est bien important. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dans 1 Corinthiens 6, encore un peu plus loin, versets 19 à 20. Ne le savez-vous pas, votre corps, c'est Paul qui l'a nommé une bonne première fois aux Corinthiens, à ce peuple qui était dans la débauche. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Puis il est là le nœud de tout notre problème. J'ai été racheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tout ce que Dieu a créé lui appartient. Il y a son étampe dessus. Mais tout ce que Dieu a créé et racheté par-dessus lui appartient doublement. Fait que si j'appartiens à Jésus, si j'ai donné ma vie à Jésus, si j'ai placé ma vie sous sa direction-là, je suis appelé à prendre soin de ce qui lui appartient, d'une manière particulière, de vouer un soin comme si c'était sacré. Vous savez, il y a 4 ans en arrière, on est retourné en Europe, généralement au niveau de 2 ans, mais là ça fait 4 ans, puis on avait loué une auto en France, parce qu'on a fait escale là-bas, loué une auto en France pour rejoindre la Suisse, voir nos familles. Puis là, j'arrive pour la première fois de ma vie avec ma carte de crédit nord-américaine, avec une assurance supposée pour couvrir les dommages sur l'auto. Puis en France, le type me dit « Non, ton assurance n'est pas valable. » Comme ben là, mon assurance couvre pour plusieurs millions et ça inclut la France, mon coco, et la Suisse, j'ai la liste. Non, nous, on ne prend pas ton assurance. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est que si tu ne prends pas l'assurance à 70 euros par jour, ben nous, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a une graphine sur l'auto, on va te charger 15 000 euros, mon coco. Fait que moi, je vous dis, là, j'ai roulé en France comme si j'avais jamais roulé de ma vie. Tu sais, écœurant sur la route. C'est 5 ans, je roule à 30. Il y a des fois, c'est ça, parce qu'il y a des feux. Aux lumières, là, il y a le flash pour la vitesse qu'on commence à avoir de plus en plus au Québec. Nous, c'est systématique. Tu dépasses d'un kilomètre heure, ça flash. Comme voyons donc, je vais me retrouver avec facture de 15 000 euros, mes enfants s'accotaient contre l'auto. Non, non, tu touches pas l'auto. J'ai pris soin de cette patente-là, là, et je comprenais très bien qu'elle n'était pas à moi. Je peux vous garantir, c'était pas à moi du tout, je le savais. Vous savez, souvent, on agit sans penser aux conséquences quand c'est pas à nous. Notre corps, excusez-moi, quand c'est à nous. Mais quand ça ne nous appartient pas, on agit différemment. Mon corps, regarde, j'ai fait de mal à personne. Ça fait de mal à personne. Ce que je suis en train de faire, c'est dans ma tête, c'est dans mes pensées. C'est juste moi, puis ma conscience. C'est juste quelques chips. C'est juste quelques clics ici et là, tu sais. Je fais de mal à personne. C'est juste pour s'amuser. Tu sais, l'autre soir, c'était juste pour s'amuser. On crouse un petit peu. C'est pas parfait grave. Regarde. C'est juste pour s'amuser. C'est juste pour se détendre. Un verre de trop. Une pof de trop. Une affaire de plus. Puis là, je veux juger personne. Mais on fait ça en se disant, regarde, ma vie m'appartient. C'est correct, c'est mon corps. On a complètement oublié que c'était pas le cas. On a complètement oublié que c'est pas le cas du tout. Souvent, on traite aussi mal notre corps parce qu'on ne réalise pas ou on ne réalise plus qu'on ne s'appartient pas. Ce n'est pas à nous, c'est lui qui nous a rachetés. Parce qu'on est toujours beaucoup plus soigneux avec ce qui appartient aux autres. Mon corps appartient à Dieu. Et c'est pour ça même que si tout est permis, ce que l'apôtre Paul dit, je fais pas n'importe quoi quand même. Tout est permis, mais je ne vais pas le faire pareil. Je vais me tenir à ce qui est utile, à ce qui élève, à ce qui glorifie le nom de celui à qui ça appartient. 1 Corinthiens 10, versets 30 à 31. Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que ce soit visible, que ce soit public, que ce soit dans ma tête, que ce soit entre les 4 murs de ma maison, que personne ne sait ce que je fais. Je n'ai pas supposé le faire. Si ça n'élève pas le nom de celui à qui ça appartient, je ne suis pas supposé le faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais en pensant à moi, en disant « je m'appartiens ». Mais lorsque je sais que ce que Dieu a créé et racheté est doublement sacré, je sais que ça ne m'appartient pas. Alors je le considère comme quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et je vais commencer à en prendre soin d'une manière particulière. L'autre chose qu'on manque, et je termine avec ça, dans notre raisonnement dualiste, c'est que l'espérance du chrétien, ce n'est pas de flotter dans les airs pour l'éternité. Ça, on l'oublie très souvent. Notre espérance réside dans la promesse ultime dans la Bible, de la résurrection de notre corps, complètement transformé, tel que Dieu l'avait voulu initialement, sur lequel le péché et les effets du monde déchu dans lequel on est n'a plus aucun impact. Et la vie éternelle dans ce corps-là, dans la présence de Dieu, sans aucun bobo, sans aucun souci. Et c'est ce que Paul explique encore une fois aux Corinthiens. Quand on relit ensemble 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 14, on va lire, tout est permis, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Il parle d'une espérance ici. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, verset 14, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et au chapitre 15, Versets 51 et 53, il va le dire, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » C'est notre assurance. Mon corps est important. Vous êtes là ce matin? Mon corps est important. Mon corps est beaucoup plus important que ce que je pensais. Ce n'est pas dans un autre corps qu'on parle ici, c'est de ce corps-là. C'est bien de ce corps-là, pas la version 1.0 là, avec des bobos, des vertèbres qui craquent, puis des maladies, puis toutes sortes d'affaires, puis une vulnérabilité, puis une tendance à tomber dans ceci ou dans cela. Puis je me prêche à moi-même ce matin, moi le premier. Là, on parle de la version 2.0 plus, recréée par la puissance de Dieu. Puis on voit des indices de cette condition-là en lisant les évangiles après que Jésus soit ressuscité. En Jésus, on a été racheté à grand prix, à très très grand prix, au prix de sa vie. Il est saint, il est descendu de sa gloire pour venir racheter complètement, payer la note, pour qu'on puisse mener une vie qui glorifie son nom en vue de l'accomplissement de l'espérance. Je vais vous lire ceci en terminant. 1 Jean 3, versets 2 et 3, où Jean va parler aux chrétiens en leur disant, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. » J'aimerais juste donner l'occasion à plusieurs de pouvoir répondre à ce message. On va prendre un dernier chant, rapidement, très très rapidement, avant d'aller au pique-nique. Mais mon premier appel est pour quelqu'un qui réalisait peut-être, tu réalisais peut-être plus, que ton corps ne t'appartient pas, bibliquement. Si on se base sur ce que la Bible enseigne, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et que tu es appelé à le glorifier, pas seulement en esprit, pas seulement en pensée, pas seulement avec des souhaits, mais vraiment à le glorifier dans ton corps. Et ce matin, je veux te donner l'occasion, pendant qu'on va, on va chanter « Je m'abandonne », de laisser à la croix ce qui t'empêche de glorifier Dieu. Ça peut être la manière dont tu prends soin de toi actuellement. Ça peut être la manière dont tu fais ou ne fais pas certaines choses. Ça peut être quelque chose que tu consommes. Ça peut être quelque chose que tu regardes. Ça peut être des relations dans lesquelles tu es. Ça peut être des actions qui te détruisent. Des relations toxiques que tu subis ou que toi-même, tu alimentes parfois. Tu permets. Ça peut être des choses que tu laisses faire par les autres sur toi. Ça peut être aussi des choses que tu fais aux autres. Jésus est venu pour nous racheter, racheter nos vies entières sur la croix. Corps, âme et esprit. Ça inclut tout ce que mon corps peut faire. Il est pleinement possible pour chacun d'entre nous de trouver la liberté en Jésus. J'en ai cette conviction-là. Mais je veux faire un second appel aussi, peut-être, pour quelqu'un ce matin. Tu vois ton corps comme quelque chose de moindre ou peut-être de honteux parfois. Tu as peut-être cette tendance à te dire, oh, « Je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » Quelque chose de honteux qui ne mérite pas d'être bien traité. Et je veux t'inviter à réaliser ce matin la valeur de ce que Dieu a fait. Dieu t'a créé. Et je sais que dans l'adolescence, c'est quelque chose qui est tough parce que ça passe souvent dans nos têtes. Je ne suis pas si vieux que ça encore. Je n'ai pas encore oublié, moi. Tu sais, Dieu t'a fait. T'a fait comme tu es, dans la période que tu es. Peut-être que tu ne grandis pas aussi vite que tes amis. Peut-être que tu as grandi plus vite que les autres, puis tu n'es pas comme les autres. Et Dieu t'a fait pareil. T'a fait comme ça. Tu vas aller rattraper les autres, tu vas voir. Moi, j'étais plus grand que tous les autres, puis à un moment donné, il s'est retrouvé le plus petit. Et comme ça, c'est parti de la vie. Mais j'essaie de me consoler en disant, qui on n'a pas été fait pour se voir soi-même? J'essaie de me consoler en se disant, ma face, Dieu l'a fait pour que ce soit les autres qui la voient. Pas l'inverse. Fait que si tu t'aimes pas, console-toi en disant, Dieu t'a fait comme ça, puis lui trouvait ça beau, sincèrement. Lui trouve ça beau encore aujourd'hui, malgré les marques que tu as peut-être sur ton corps, malgré tout ce que tu as vécu. Fait que je vais t'inviter à réaliser la valeur de ce que Dieu a créé, commencer à être reconnaissant. Tu sais, le psalmiste disait, je te loue, mon Dieu, parce que je suis une créature si merveilleuse. Je ne pense pas que dans les miroirs de l'époque, faits avec des... Tu sais, on tapait des plaques d'acier, puis on essayait de les débosseler, puis vous voyez dans le miroir, je ne pense pas que c'était en réaction à ce qu'il voyait. C'était en réaction à ce qu'il savait de l'intérieur. Amen. Je te loue parce que ça là, c'est une créature merveilleuse, c'est Dieu qui l'a fait. Et que vous êtes plusieurs ce matin à subir les effets des paroles, des actions, des regards des autres. Peut-être ça limite ta vie. Dieu t'a fait comme tu es, t'a fait à son image, et à cause de ça, t'as une dignité. Alors ne laisse plus personne te faire du mal. Si c'est ton cas, ne laisse plus personne mal te parler. une valeur énorme aux yeux de Dieu. Ce que Dieu a fait, il le protège. Amen. Il t'a fait et il a dit que c'était très bon. Je prie pour vous, puis on va chanter ce chant. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, moi le premier aussi. Seigneur, tu nous as créés pour que nous puissions glorifier ton nom à travers nos vies, corps, âme et esprit. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour quelqu'un qui subit le rejet, quelqu'un qui a subi l'intimidation, quelqu'un qui a subi des abus et qui a besoin de réaliser ce matin ce que tu fais et qui tu es pour cette personne, Seigneur. Et la valeur qu'elle a à tes yeux. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Alors Seigneur, je prie que tu puisses restaurer ce matin. Je prie que tu puisses réconforter, relever, Seigneur, et que chacune de ces personnes qui vit peut-être avec ce combat-là puisse ressortir de ce lieu en disant, peut-être qu'avant je me laissais marcher dessus parce que je considérais mon corps comme quelque chose de honteux. Mais Seigneur, tu lui redonnes sa dignité ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses lui donner le courage d'aller de l'avant, d'aller au-delà, et de faire comme le psalmiste, de déclarer ses paroles de vie sur sa propre vie. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse que tu as créée. Peu importe ce que les autres en pensent, c'est les autres qui sont en train de s'enliser en pensant mal de moi. Parce que moi, j'ai été créé par toi, Seigneur. Je prie que tu puisses déposer cette conviction dans le cœur de plusieurs ce matin. Et permettre, Seigneur, que plusieurs aussi, moi le premier, réalisions encore et davantage, Seigneur, que ce que tu as fait, le corps que tu nous as donné est le temple du Saint-Esprit et non pas la prison de notre âme. C'est ton temple, c'est ta résidence, que nous puissions considérer ce que tu as fait, Seigneur, comme quelque chose de sacré et de saint, avec beaucoup de respect, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Levons-nous juste quelques instants avant de quitter.